Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 2 juin 2007, il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV. Ah non, pas de ciné ni de DVD aujourd'hui. Suivi de Ça c'est du sport, le résultat sportif en direct des vestiaires et l'infirmerie. Et ensuite à 15h le potager, 16h c'est une transmission, 17h Big Bang, 21h30 Stay Tuned. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur le site internet www.radio-fmr.net. Je me suis un peu fait avoir sur le début, voilà, faut pas se mettre à lire 2 minutes avant l'antenne. On oublie de caler les disques, on oublie de mettre en route les machines à jingle et tout le reste. Pas classe, pas classe, pas classe. Pas de Thomas aujourd'hui, du sport lui est déjà là. Et pour ouvrir, en guise de générique, j'ai décidé d'exhumer un vieux disque de ma collection. Extrait de l'album Homeworks. Enfin, c'est un patchwork en fait de ce qu'ils avaient fait à une époque. Il s'agit des Daft Punk, Revolution 909. Et aujourd'hui, c'est un spécial régression et héritage. Eh oui. Attendant, mettez-vous sur le côté. We'll be right back. Et voilà, voilà, voilà. Ça discute informatique avec du sport. Oui, je sais, j'avoue, hier j'ai scotché devant ma Freebox à regarder le lancement de No Life, la chaîne de geek par excellence. Plutôt l'autre micro du sport. Qui donc a été monté par la toute première équipe de Game One, il me semble, qui avait une société de production qui s'appelle Pocket Chami, si je ne me trompe et je ne m'abuse. Et donc ils nous promettent une chaîne vraiment pour les allumer, des jeux vidéo, pour ceux qui n'ont pas de vie. Il y a une vie à part la vie. Et ça a l'air assez disjoncté et branque. En tout cas, la soirée de lancement hier était pas trop mal du tout. Malheureusement, je peux plus l'enregistrer, tiens. Je le regrette un peu. On verra, on en rediscutera par la suite. Pas de Thomas aujourd'hui. Puisqu'on parlait de montage en télévision, lui, il est carrément surbooké sur ses bancs de montage. Donc justement, il est un petit peu fatigué. Là, aujourd'hui, il était mais claqué. Je crois qu'il dort encore. Donc... De son côté, ben pas d'émi. Oups. Ah, c'est la voix de Björk derrière, oui, excusez-moi, sur le fond de 808 State. Décidément, aujourd'hui, je suis un peu crevé. Donc aujourd'hui, donc pas de Thomas. Par contre, on vous a prévu une interview que l'on a enregistrée à Angoulême lors du festival de la bande dessinée. Il s'agit de Valt. Valt, qui est le co-scénariste et co-dessinateur de... du Scrum Stash, et puis accessoirement quelques sorties BD, mais relativement peu, mais c'est surtout axé sur le terme, je veux pas dire de régression infantile, mais plutôt de l'héritage dans la bande dessinée et sur l'enfance. Du sport, oui. Non, je t'ai dit pas le bleu, je t'ai dit le jaune.
Je pensais que tu parlais du casque. Franchement quoi.
Non, parce que là on a... Là c'est du bricolage. C'est du bricolage, donc là c'est pas du tout le bon micro. Cette ligne est déjà utilisée pour autre chose. Donc pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui en sport, à part la finale de rugby?
Ah, y a, moi comme je suis plus foot que rugby, il y a pas mal de foot, hein. Alors les championnats sont terminés. Mais par contre... comme un cheveu sur la soupe, viennent ce week-end et mercredi prochain se greffer quelques petits matchs éliminatoires pour l'Euro 2008. Hein, alors il y a la moitié de l'équipe de France qui est déjà partie en vacances depuis 3 semaines, leur championnat terminé, et là ils se remettent à jouer. Ça va être très très rigolo, ça, surtout face à des gros bourrins comme les Ukrainiens, quoi. Ça risque d'être rigolo, quoi.
Ça va le faire. Non, je te parlais de télévision, moi.
Ah bon, de télévision. Oh là là, ça va être un petit peu varié avec quelques petites séries bien anglaises. Il y a également quelques petites rubriques rigolotes, des documentaires, un spécial vampire et une série de films cultes.
Grand Dieu.
Ouais, ça va être la braderie, on va dire.
Ça va être la braderie, d'accord. Ouais, ouais. Ça sent les fonds de catalogue là, hein. Et encore, on n'est pas en plein milieu de l'été. Dans les années 1960, Kenna, jeune ado de la campagne élevé par son oncle George, apprend qu'il est en fait un enfant des étoiles d'un mystérieux continent des deux lunes. Il se fera un ami d'un étrange extraterrestre ressemblant à un singe casqué, le Scrum Stash, trouvera ses vrais parents, découvrira sa planète tellement différente de la Terre et vivra plein d'aventures. Dans le journal de Spirou, cette BD s'installe comme une série de science-fiction, bon enfant, largement moins sérieuse que Yoko Tsuno, apparue 5 ans plus tard. 2007, c'est aux éditions Glénat que paraissent les nouveaux albums, dont le tome 37 qui est sorti en novembre dernier, Les Exilés. L'occasion de parler de l'héritage de la bande dessinée franco-belge et comment un auteur peut passer sa série à quelqu'un d'autre, fut-il de sa propre famille. Référence évidemment à Hergé qui a décidé d'arrêter. Et d'un autre côté, et ben vous le verrez tout à l'heure, à Raymond Machereau qui passe la main pour son chat. Walt est le fils de Goss, le créateur du Scrum Stash. Il scénarise et dessine donc la série, ainsi que son dérivé Les Galaxiens. Et nous l'avons rencontré lors du dernier festival d'Angoulême en janvier dernier. Tout de suite en interview dans le supplément week-end sur Radio Éphémère.
Walt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le dessinateur du Scrum Moustache qui est scénarisé par Goss, qui est votre père.
Oui, mais c'est plus compliqué que ça en fait. on est tous les deux scénaristes et dessinateurs, et ce dans une proportion qui varie d'un album à l'autre. Donc c'est effectivement parfois difficile à comprendre pour les gens, parce que quand ils voient deux noms sur un album, souvent c'est parce qu'il y a un scénariste et un dessinateur. Ici, il y a plusieurs cas de figures particuliers. On est père et fils, donc moi je suis le fils de Goss en fait. Donc quand j'étais petit, j'ai vu ces personnages naître sous le crayon de mon père. Je m'intéressais au dessin, j'aimais bien rédiger des histoires pour les cours de français. Et donc dès l'âge de 12 ans, j'ai été un petit peu son apprenti, vraiment comme dans les anciens métiers, des compagnons je veux dire. Moi j'ai appris la BD vraiment sur le tas. Donc il m'a appris à faire du lettrage, il m'a appris à avoir petit à petit de l'assurance dans mon trait à l'ancrage. Et parallèlement au collège et au lycée, j'ai fait des cours du soir aux Beaux-Arts pour apprendre le dessin classique. Ce qui fait qu'à 16 ans, j'avais déjà une bonne formation à la fois de dessin mais aussi de bande dessinée. Et il m'a permis d'être son assistant.
C'est ça qui est intéressant, c'est comme... À partir de quel âge ça a vraiment commencé? Moi, je me souviens d'un strip que vous avez fait avec votre père sur la succession, dans un Spirou spécial auteur de bande dessinée, où en fait vous expliquez que vous faisiez des Scrum Moustache de contrebande et que des fois il était un peu malade.
Ah oui, oui. Non, ça c'était plutôt une bonne blague de l'ami Bercovici et de Zitrou qui avait voulu nous rendre un hommage. Non, bon, effectivement, ça arrivait qu'à la cour de récré, sachant ce que faisait mon père, on me demandait des dédicaces ou des choses comme ça, mais jamais je ne les ai monnayées, non.
Quand vous vous êtes mis à dessiner à quatre, est-ce que...
À
quatre mains, oui, je me suis un petit peu emballé, un petit peu vite. Est-ce que des fois, on vous fait remarquer que tel dessin, c'est un tel, le tel autre, et que finalement, on préférait celui de Dieu le Père plutôt qu'à son fils sur Terre?
Ouais, ben non, finalement, ça arrive très peu. Et autant mon père comme moi, nous savons très bien ce que nous avons fait quand nous voyons des anciennes pages... On sait parfaitement identifier qui a fait quoi, mais les lecteurs et même souvent l'éditeur ne voient pas ces nuances. Alors que mon père a toujours été très critique envers mes dessins, il l'est encore parfois maintenant. Il s'attache à des petits détails qui pour lui ont beaucoup d'importance. Et finalement, j'ai pas la prétention de... J'ai pas dessiné tout de suite magnifiquement bien comme lui. Hein. Donc c'est évident qu'il y a des nuances. Maintenant elles s'estompent peut-être un peu vu que j'ai 25 ans de pratique. Mais au début il y en avait, mais jamais les lecteurs ne nous l'ont fait remarquer. Donc soit ils sont très indulgents, soit ils ne voient pas ces différences.
Sur les séries de franco-belges classiques à ligne relativement proche de la ligne claire ou à Grenet qui ont eu une suite, Véron a pris la suite de Roba sur Boulet Bill. William Locher, dessinateur Nabucodinosaur, a repris celle de Greg sur Archie Talon. Est-ce que pour vous, ce sont des choix qui sont heureux? Politiquement, c'est pas évident.
Oui, non, je vais essayer d'être le plus franc possible. Je trouve que le Véron a repris admirablement Boulet Bill. Son graphisme est vraiment très proche de celui de Roba. Mais Véron est un dessinateur qui a un énorme talent. Je veux dire, il ne singe pas le dessin de Roba. Il a naturellement une patte similaire. Et il a fait d'autant plus ses preuves dans sa propre série du Long Verju. Bon, voilà. Mais vous avez vu que sur Boulet Bill, il y a plusieurs scénaristes, par contre. Parce que c'est ça, la difficulté, quand on reprend une série comme ça, c'est surtout... on peut toujours trouver un dessinateur qui est proche et qui, en faisant un effort, va s'adapter d'une manière plutôt plus que moins, plus heureuse à ce style. Mais dans le cadre de séries comme Boulet Bill ou Achille Talon, le succès était surtout basé sur l'ambiance, l'humour particulier. C'était vraiment des séries qui étaient personnelles à ces auteurs. Roba était auteur complet. Ces histoires de Boulet Bill étaient basées sur ses souvenirs d'enfance et sur l'enfance de ses propres enfants. Et là, je dois dire que malgré tout le talent de Corbeyran et des deux autres co-scénaristes, Les gags sont drôles, ils sont honnêtes, mais je retrouve pas tout à fait l'esprit de Jean Robat. Mais c'est très difficile, franchement, ce n'est de loin pas une critique. Mais quand une œuvre est vraiment personnelle comme celle-là, c'est difficile de faire du copier-coller. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit vraiment le but. Mais j'ai beaucoup de plaisir à lire les bouquins de Boulébile, même les récents. Achille Talon, je ne peux pas me prononcer parce que je les connais moins. Je n'ai pas encore lu les aventures reprises par les nouveaux co-auteurs. Oui, enfin bon, voilà.
Et d'un autre côté, quand on voit des icônes populaires, des personnages à bande dessinée qui sont évadés littéralement des bouquins tellement qu'ils sont devenus célèbres, comme Tintin ou Gaston Lagaffe, des personnages qui ont été arrêtés sur décision de leur auteur à leur mort. Vous comprenez cette décision ? Vous pensez qu'elle est trop égoïste ou finalement que c'est le droit moral des auteurs ?
C'est de deux choses. Effectivement, c'est le droit moral des auteurs de faire ce choix ou pas. Par exemple, pour Hergé, oui, il a estimé que cette œuvre était personnelle, même si pourtant il travaillait en équipe et que bon nombre de ses collaborateurs auraient pu continuer des aventures de Tintin. Pour Franquin, l'attitude est plus subtile et plus nuancée, puisqu'il a toléré, il a même choisi son repreneur pour Marsupilami, et Luc Battem s'en sort très très bien pour le Marsupilami. Par contre, pour Gaston, il a estimé effectivement que c'était un personnage tellement proche de lui et très personnel qu'il n'a pas souhaité qu'il y ait de suite. Et finalement, c'est à la fois dommage et à la fois c'est aussi un piège qu'il évite à d'éventuels repreneurs, parce que beaucoup de dessinateurs ont un talent graphique proche, comme les auteurs de Jobard ou... Mais là aussi, l'esprit Gaston, il y avait tellement de la personnalité d'André Franquin dans le personnage de Gaston Lagaffe qu'une reprise serait très hasardeuse. Ouais.
La science-fiction est un genre qui, par définition, est destiné à se faner et à se démoder. Alors, la question, c'est comment le Scramustache, qui est à la base une série de science-fiction avant tout, avant d'être une série jeunesse, comment renouveler cette série qui a... Quel âge il a, le Scramustache ?
Oui, le Scramustache a 35 ans. Et donc, effectivement, autant le thème abordé, la manière de le faire, c'était moderne quand mon père a créé ça en 71. Il n'y avait pas encore la guerre des étoiles, il n'y avait pas encore E.T. le petit extraterrestre qui rencontre un petit terrien. C'est finalement, le concept est très proche du Scramustache. Mais c'est vrai que surtout, c'est toute l'évolution technologique qui va très vite et qui s'accentue ces dernières années, qui donne un petit côté effectivement suranné à la série. Alors bon, j'ai des lecteurs de tous âges, parce que les lecteurs qui étaient enfants dans les années 70 sont restés attachés à la série et souvent la continuent sous prétexte que c'est pour leurs enfants, mais souvent c'est pour eux, je le vois pendant les dédicaces. Mais j'ai beaucoup de lecteurs jeunes, des enfants qui finalement ne se rendent pas compte ou ça leur est égal que la soucoupe du Scramustache a un petit air rétro. Eux, ce qu'ils lisent, ce sont des aventures plaisantes, humoristiques. Ce n'est pas que de la science-fiction comme Valérian. Enfin, c'est pas de la science-fiction qui se prend au sérieux. Donc finalement, ça reste actuel à cause des différents niveaux de lecture, à cause de l'humour. Et puis, si on le regarde d'un petit côté parodique ou suranné, moi, ça ne me dérange pas du tout.
Donc, tant pis si finalement, il a une télé à coin rond et même pas plate à gros tubes et que Kenna se trimballe sans portable sur le continent des deux lunes.
Oui, oui, non, tout ça, nous, ça ne nous dérange pas. Un portable, il pourrait en avoir un si le besoin du scénario s'en faisait ressentir. Mais oui, le côté un peu suranné de la technologie Scramustache et Galaxienne, un petit peu kitsch comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Si maintenant, un jour, les lecteurs ne nous suivent plus sur ce terrain, bon, il faudra que je revise mon jugement, mais...
C'est l'heure de la question qui fâche, à savoir, est-ce qu'il y a des frictions, des fois, avec votre père ?
Mais oui, bien sûr, ce serait anormal qu'il n'y en ait pas, puisque, bon, travailler en famille, c'est toujours difficile, que ce soit à la boucherie sans eau ou dans la menuiserie du schnock ou pour des auteurs de BD. travailler en famille, c'est toujours compliqué, puisqu'effectivement, c'est quelque chose... En plus, un métier artistique, il y a quelque chose de très passionnel là-dedans. Donc effectivement, parfois, on n'est pas d'accord sur des pistes à suivre, sur des détails de dessin, comme j'expliquais tout à l'heure. Et bon, autant mon papa est quelqu'un de très sympa et très gentil, parfois, il peut s'arc-bouter sur une position... J'ai appris à composer avec ça, c'était plus délicat quand j'étais adolescent, maintenant que j'ai 40 ans, bon, c'est plus facile. Mais sinon, j'aime cette collaboration, elle a quand même plus de haut que de bas et elle m'a apporté tellement de satisfaction et de joie aussi. C'est, quand on se réunit le samedi pour faire du scénario, c'est toujours un bon moment et c'est très gai de voir l'émulation qui se crée. Et alors, quand on est dans une phase comme ça de création, d'humour, le côté... relation familiale s'estompe et finalement ce sont deux auteurs qui discutent boulot et c'est très plaisant.
Ouais. D'accord, c'est le samedi comme des lycéens qui font du parti de jeu de rôle. Vous auriez aimé créer votre propre personnage et avoir votre propre série ?
Mais on pose souvent cette question.
Ah ben c'est une question bateau, alors je la zappe.
Non, pas du tout. Non, c'est pas une question bateau parce que j'ai des réponses particulières à y apporter. En fait, je suis très à l'aise dans cet univers puisque je l'ai vu naître étant enfant. Donc j'ai un peu l'impression que ces personnages sont comme les miens. J'ai pas une volonté farouche de m'en éloigner. Je les aime bien et je pense que je peux encore développer pas mal de choses. Mais ces dernières années, je m'occupe d'éditorial aux éditions Glénat et j'ai eu moins de temps pour me pencher sur un projet qui me tient à cœur, qui est celui de développer le spin-off des Galaxiens. C'est-à-dire que on a déjà fait des albums de Galaxiens où le serait moustache à moi la vedette. On a fait des albums de gags en une page des Galaxiens, mais dans les années 80, je vais reprendre ce concept et développer les Galaxiens avec un humour un peu plus acidulé, comme je l'ai fait dans Le Président ou dans Tempête chez les Figolos. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Maintenant, écrire du scénario pour d'autres, pourquoi pas, mais les journées ne font que 24 heures. Je suis directeur de collection chez Glénat et je ne peux pas tout faire, mais je ne ferme aucune porte. Ça me plairait d'écrire du scénario pour d'autres ou pour d'autres sujets totalement différents dans un avenir proche, oui.
Justement, vous en avez parlé, le Scramostache, c'est un personnage, une série qui est créée dans l'hebdomadaire Spirou chez Dupuis. Et depuis quelques années, c'est passé chez Glénat. Quels sont, en fait, pourquoi avoir changé d'éditeur ?
Bon, enfin là, je vais essayer d'être le plus franc possible. Je trouve que les éditions Glénat ont été très mal gérées dans les années 80 et 90. Au niveau éditorial et au niveau commercial. Alors bon, ça...
Glénat ou Dupuis ?
Pardon, excusez-moi, quel lapsus, les éditions Dupuis. Non, je parle effectivement...
Jacques, si tu nous écoutes.
Non, ouais, Jacques, excuse-moi, je le ferai plus, c'est promis. Non, je parle évidemment des éditions Dupuis. Je trouve que les éditions Dupuis, qui étaient l'éditeur historique du Scrum Eustache, c'était l'éditeur leader dans les années 60 et 70. Il avait un catalogue fabuleux. Après ça, sont arrivés des nouveaux actionnaires et surtout un nouveau management qui a voulu faire de Dupuis un éditeur généraliste. Alors ils ont créé toutes les autres collections, Air Libre, Pérage. Bon, soit c'est pas un choix qui m'appartient de commenter, mais c'est un choix que je n'ai pas cautionné. D'autant plus qu'il s'est produit ce que je redoutais, c'est qu'ils ont négligé le fonds tout public, qui était pourtant leur cheval de bataille commercial, médiatique. Et donc ils ont laissé les séries vivre de leur belle vie, s'arc-boutant sur le fait qu'elles fonctionnaient très bien, mais finalement à force de ne plus les soutenir et de communiquer sur Air Libre et Repérage, maintenant beaucoup de séries de ce fonds tout public ont des difficultés ou sont tombées en désuétude au niveau du lectorat et c'est très 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 dommage. Donc tout ça je ne l'ai pas cautionné. Et donc voilà, j'ai vu les parts de marché fondre de Dupuis par rapport aux éditeurs concurrents. Et notre série en souffrait beaucoup. Elle n'avait plus de visibilité, de moins en moins de promotion. Et donc voilà, j'ai aussi eu vent du fait que les éditions Dupuis allaient être vendues. Et j'ai préféré, avec mon père, quitter les éditions Dupuis avant cette revente. Et les éditions Glénat nous ont accueillis à bras ouverts. Ils aiment le Scrum Eustache et ils ont conscience que c'est une série classique de la BD franco-belge. Donc ils l'ont très bien installé dans leur catalogue au sein de la nouvelle collection Paris-Bruxelles. Et en plus, ils m'ont demandé de développer des projets principalement pour cette collection, ce qui me tient à cœur et ce qui me plaît beaucoup. Donc moi, personnellement, je suis très content et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Voilà.
D'accord. Walt, merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Walt, donc, qui est le co-scénariste et co-dessinateur avec son père Goss du Scrum Eustache, dont le tome 37 Le dernier album en cours est sorti chez Glénat en novembre dernier, il s'appelle Les Exilés. Interview qui a été enregistrée lors du festival d'Angoulême en janvier dernier. On va rester dans les classiques de la bande dessinée franco-belge avec Raoul Covin, scénariste de Pauvre Lambil, des Tuniques Bleues, des Psys. Il a énormément de séries à son actif, c'est absolument monstrueux. Et Raymond Machereau, qui est un grand classique, un dessinateur classique, sauf que cette fois-ci, Raymond Machereau décide de se céder la main à Erwin Drez. Mirliton, le premier tome s'appelle Belle la vie. C'est une nouvelle série à partir de ce personnage qui donc sort aux éditions Floozmaker. Alors des chats de bande dessinée, paresseux et râleurs, bah j'en connais une bonne portée. Tiens, il y a Garfield, il y a Billy the Cat, il y a Earl and Mook. Non, Earl de Earl and Mook, qui était plutôt, on va dire, lunatique, c'était plutôt autre chose. Il y a New Mao, le chat chinois, il y a le chat de Gaston Lagaffe, il y a Jujube. Non, Jujube, il est un peu innocent, mais bon, il y en a une belle tripotée, quoi. Rendons hommage au tout premier du lot, Mirliton. Un chat qui tient trop au confort que lui fournit une maîtresse de maison prévoyante et sympathique. Un petit coussin douillé, pas trop loin du chauffage, un bol toujours bien rempli, de l'eau fraîche et surtout beaucoup d'affection. Un chat attachant, malgré ses gaffes, ses bouderies et parfois ses moments de colère passagère. Le tout dans une banlieue pavillonnaire au mobilier 60s qui pourrait sortir de chez But. Un gazon d'où sortent des bouquets de fleurs et des arbres chargés d'oiseaux au gazouillant. C'est du franco-belge intemporel, délicieusement désuet et éternellement moderne. Et mignon tout plein. Quand on ouvre l'album des aventures de Mirliton, c'est tout l'univers graphique de Machereau qui revient en mémoire, telle une madeleine de Tintin. Chlorophylle, Isabelle, Chaminou le méconnu, et même quelques Clifton. On a presque l'impression qu'un de ces personnages doit sortir de derrière un arbre, tellement le trait a marqué plusieurs générations en lisant le journal de Tintin ou celui de Spirou. Et oui, c'est en écrivant ça qu'on se prend subitement un coup de vieux. Raymond Machereau, 83 euros au compteur, toujours avec son trait rond et d'un pinceau élégant, fait place à un jeune homme de 47 ans, Erwin Drez. La rupture est sensible puisque le trait est plus contenu, moins libre, pas évident de prendre la place d'un des maîtres de la bande dessinée enfantine animalière. Après sa Sibylline, il a donc tenu à confier ses personnages à un autre de ses personnages, un nouvel éditeur et un dessinateur de confiance. Alors si vous cherchez l'ouvrage pour la fête de votre maman ou de votre papa, ce sera la petite larme à l'œil et le retour en enfance garanti. Si c'est pour le petit cousin de moins de 8 ans, vous aurez peut-être une chance de ne pas avoir l'air trop ringard, mais bon, quand même, c'est une très bonne série. Mirliton, premier tome s'appelle Belle la vie, premier tome aux éditions Floozmaker, Raoul Covin au scénario, Raymond Machereau et Erwin Drez au dessin. Radio FMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end, midi 30 exactement. Pas de publicité aujourd'hui pour cause de grève informatique. Pas de Thomas non plus, Thomas qui, d'ailleurs, sur son site thomasbertelon.com, va bientôt avoir son propre blog. Donc vous aurez plus souvent des chroniques cinéma qu'il fait, du supplément week-end et plein d'autres choses. Enfin, ça fait partie des évolutions qu'on prépare pour la rentrée. On vous promet quelque chose de croquignolé et de mignon. On reste sur le thème de l'enfance avec Anya Aoba, Tomonen. C'est dans la collection adulte, Made in Kana, même si je ne suis pas tout à fait d'accord que cela soit dans la série adulte. C'est pas un choix que je cautionne. Mais... c'est vraiment peut-être le coup de cœur de cette semaine. C'est un dessin très spontané, des visages vifs et expressifs, des lieux indéfinissables, à la nature omniprésente et à la sagesse vénérable. Et surtout des contes de la vie quotidienne, le merveilleux peut ressortir à tout moment. On songe de suite à Hayao Miyazaki. Et pourtant pour rien, même si le très spontané de Kenya Oba est extrêmement proche de celui du réalisateur, et que les histoires pourraient avoir pour cadre un des films Ghibli, comme Kiki, la petite sorcière, mon voisin Totoro, ou Si tu tends l'oreille. Chaque chapitre du livre est axé autour d'un enfant, d'une rencontre fantastique qu'il fait, avec une apprentie sorcière, un enfant prodige de foire, ou d'une pièce de 100 yens qui parle. Chaque histoire a sa petite morale, celle qu'on est plus fort en contact des autres, que l'amitié est un bien précieux et qu'il ne faut pas regretter le temps qui passe si on ne veut vraiment apprécier la vie. C'est d'une poésie incroyable, trait d'une fraîcheur aérienne, crayonnée, parfois à peine passée à l'encre, et surtout ça réchauffe le cœur. Lire ce livre est un moment de bonheur qu'on aurait du mal à refuser. Tomonen, une collection de petits contes de la vie quotidienne, par Kenya Oba, dans la collection Made in chez Kana. De genre avec Leiji Matsumoto, créateur d'Albator, de Queen Esmeralda, adaptateur aussi de l'Anneau de Nibel Hogan en version SF et de plein d'autres choses. Galaxy Express 999, c'est le tome 17 qui vient de sortir dans la collection Kana. Plus de 20 ans après la première série, traduite en France en 14 volumes depuis 2-3 ans justement par Kana, et ben Tetsuro reprend place dans le mythique Galaxy Express 999. Un train à vapeur qui parcourt l'espace vers une planète mythique, à l'invitation de la troublante Maëtel. Et c'est au troisième tome de la nouvelle série qu'on apprend enfin quels sont les ennemis qui veulent mettre des bâtons dans les roues à Tetsuro. Ce ne sont ni les Sylphides, ni les robots, ni les dieux nordiques gardant jalousement Asgard, mais simplement le côté obscur de l'univers, les métanoïdes qui haïssent les lumières et les formes de vie qui ne leur ressemblent pas. De toutes les séries de Leiji Matsumoto, c'est bien la plus sombre, la plus noire, la plus difficilement sondable. On sent bien aussi que l'intrigue est largement plus désespérée. Avec des morales parfois simplettes de la première série, et ben l'empreinte des Captain Harlock, Cosmo Warrior, le dessinateur a su évoluer avec les mœurs, mais sans trahir son propre univers. À toute vapeur, dans l'espace infini, cette série est une fuite en avant. Leiji Matsumoto, Galaxy Express 999, l'étape numéro 10, elle vient de sortir en France chez Kana. les chroniques BD de la semaine dans le supplément au week-end sur Radio FMR. J'ai pas pu m'empêcher de laisser courir le fond sonore de R. Extrait de, c'était leur premier album Moon Safari. On va enchaîner d'ailleurs dans la musique, hein, puisqu'on va enchaîner direct sur du sport, avec Fac 15, Stay With Me Till Dawn, reste avec moi jusqu'à l'aube. Kuma Sunset Mix, c'est sur Radio FMR 89.1 MHz. Et du sport, lui, il est en train de se dire, bon alors, ce soir, pizza, une choucroute d'Eric, ou alors je vous fais une un cocktail Magnum P.I., à base de Ferrari. Ah ouais, ah ouais. Ça va être encore plus drôle que ça. C'est là, c'est les chroniques télévision de MC du sport d'ici 6 minutes sur Radio FMR 89.1 MHz dans le supplément week-end. en catastrophe, il remet son casque, comme vous pouvez l'entendre, il se remet en position.
Ouais, non, parce que bon, je vais pas vous faire tout d'un trait, comme il y a pas mal de choses. Donc, avec le disque qui est là dessus, que t'as badé là quand je suis arrivé, et que t'as dit oh, ouais, c'est sorti, ils le vendent ça. Et ouais, j'ai trouvé à pas cher dans une officine qui pratique la vente de disques à pas cher, quoi.
D'accord. D'accord.
Ok.
Lequel?
Alors tu mets celui que tu veux. Alors, comme pour illustrer un petit peu ce dont je vais parler. Pour commencer la rubrique télé, tu peux mettre le dernier carrément, parce que le premier,
ah oui,
je me le réserve.
Ah oui.
Le premier, le numéro 1, je me le réserve pour la fin de la chronique, hein, quand il sera temps de parler des films un peu cultes. Ou supposait-elle, avant de parler de télé, vite fait, pour vous dire que le numéro de juin de SoFoot vient de sortir, avec... toujours son prix ridiculement bas. Alors c'est ça qui me botte, quoi, tu vois, quoi, parce que bon, à quantité égale, quoi, t'as d'autres magazines, ça coûte le double, tranquille, hein, d'autres mensomadaires mensuels, quoi, qui coûtent le double, là ça coûte que moins de 3€, quoi, ok, avec différents articles, Barthez, Houillet, Gérard de son prénom, Mexès, Philippe de son prénom, Mendy, Bernard de son prénom, Galas et Henri, les trafiquants de vin. Alors c'est pas mal comme titre d'article, un article sur Werder de Brême, les rubriques habituelles et tout. Enfin bon, comme d'habitude, c'est terrible, c'est terrible. Et il y a également un article qui nous parle bien des championnats et de ce qui s'est passé dans les différents championnats dont on parle jamais, tu sais, genre en Roumanie, en Bulgarie, en Belgique, si en Belgique quand même, nous on en parle un petit peu, c'est juste à côté de chez nous,
bah
mais bon,
oui, quand même.
Hein, ce style là, quoi. Enfin bon, c'est comme d'habitude, c'est vachement bien. Et en plus, il y a un édito qui est terrible, terrible. Et on apprend également, mais ça c'est parce que généralement je lis pratiquement jamais les éditos. Hein, tu vois, j'ai lu cet édito et j'ai appris que, eh bien, il a été en partie repris d'une chronique sortie sur France Inter, dans la bande à Bono. Et donc, j'ai appris que deux collaborateurs de SoFoot, dont le directeur de la publication, hein, Franck Hanez, eh bien, font également de la radio. Alors,
ah, bah oui, c'est les parigoïstes qui. Ouais. Qui font aussi un autre journal, Ultra Branchouille, c'est même pas la peine de le lire, il est nul d'ailleurs, Technicart.
Ouais, alors donc, si vous voulez écouter les collaborateurs de SoFoot à la radio, déjà sur Europe 1, dans l'émission de Pierre-Louis Basse, ah, Pierre-Louis Basse, qui ne connaît pas Pierre-Louis Basse. Ah, si tu n'écoutes pas Europe 1 pendant le Tour de France, si tu écoutes Europe 1 pendant le Tour de France, tu dois entendre Pierre-Louis Basse, qui fait également des rubriques sur France Info, pendant le Tour de France, et c'est lui qui se tape tout le tour derrière la moto, tu vois. Et bon, c'est un personnage, hein, et puis c'est une voix également. Et donc, Shérif Guémour, quoi, qui fait partie donc de cette émission avec Pierre-Louis Basse, qui s'appelle Bienvenue au Club, diffusée sur Europe 1 de 20h à 22h30. Et il y a également Franck Hanez, donc, qui est le directeur de publication de SoFoot, je crois que c'est ça, hein, directeur de pub, enfin bon, bref, quoi, qui fait une émission, qui participe à une émission qui s'appelle La Bande à Bono, présenté par Frédéric Bonneau sur France Inter de 16h30 à 18h.
Ouais. Si je me trouve. Samedi, je crois, non ?
Il n'y a pas de jour, hein, c'est pas précisé. Donc, renseignez-vous un petit peu plus sur ce sujet-là. Bon, tout ça, donc, à propos de SoFoot. À présent, une petite recette tirée d'une série télé, c'est tiré du bouquin La cuisine des séries, paru aux éditions à pas cher, c'est-à-dire 2€ le bouquin. Hein, et là, ben, je vous ai choisi la tarte aux cerises du double R. Alors, de quelle série, à ton avis, c'est tiré?
La tarte aux cerises, à mon avis, ça doit être. Alors, Shérif, fais-moi peur.
Non. Alors, le personnage qui mange des tartes aux cerises et puis qui mange pas que ça, mais enfin, ses repas principaux dans la série culte. Là, c'est une série culte, vraiment. C'est café, donuts et tarte aux cerises.
Alors, c'est pas chez Barney, c'est une série policière, NYPD Blue ?
Non, tu les vois pas bouffer, hein, dans NYPD Blue, je suis désolé.
Bon, d'accord, je me trompe.
Plus loin, en arrière, quelques années en arrière. Une série qui a été initiée par un réalisateur de cinéma de films cultes depuis le départ et qui n'a fait pratiquement que des films cultes. Allez, son prénom c'est David. Tic 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 tic.
Là, je ne saurais te dire, non, là c'est pas la peine. Tic
tic. Une série dans laquelle, eh bien. Une série dans laquelle l'acteur qui interprète Fox Mulder dans X-Files est travesti.
Qui a tué Laura Palmer punaise.
Tiens là, t'arrives pas à lire. C'est de Twin Peaks. Alors, avec la citation, hein, toujours, avec tout ce sucre, vous devez avoir le métabolisme de l'abeille.
J'étais en train de réfléchir à autre chose et en fait, je me rends compte que là, que en fait, dans L'Homme de Fer, ils vont manger des pizzas. Ils ont même carrément une carte de fidélité de la pizzeria en question.
Ouais, donc, mais t'as également la pizza, hein, également une recette de pizza hein, dans ce bouquin. Je vous la ferai un petit peu plus tard parce que bon, c'est une pizza classique, hein, pizza pepperoni.
Ouais, et puis
quoi.
Il faut préchauffer le four d'abord.
Ouais.
Pour
la tarte aux cerises, pareil. Hein,
oui, c'est vrai.
Allez, alors 25 minutes de préparation, 45 minutes de cuisson. Il vous faudra une terrine, un économe, une grande poêle, un moule à manquer, un pinceau alimentaire. Bon, ça on peut s'en passer. Du papier sulfurisé. Pour 8 personnes, bah ouais, une tarte normale quoi. Hein. 160 g de farine, 100 g de sucre en poudre, 150 g de beurre, 2 œufs, du sel, 1,5 kg de cerises au sirop, 2 sachets de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de lait et un petit peu de cannelle.
Ouais, parce que alors, le prix des cerises en ce moment.
Alors tout d'abord, on prépare la pâte. Alors bon, là, j'ai donné les ingrédients pour préparer la pâte. Bon, si vous êtes des feignants finis, vous pouvez acheter de la pâte toute prête. Hein.
Ouais, okay. Parce que c'est une pâte brisée, non ?
Brisée ou sablée.
Sablée.
Ouais. Voilà, brisée ou sablée, quoi. Alors ça, c'est selon les goûts, hein, de toute façon, quoi. Moi, je préfère la pâte sablée, quoi. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Ensuite, on fait fondre dans un moule 120 g de beurre et on réserve le restant. Je rappelle qu'on a pris 150 g de beurre. On verse le beurre fondu dans la terrine, puis on casse un œuf, on sépare le jaune du blanc, le blanc en réserve, et on rajoute donc le jaune à la farine. On y met une pincée de sel, on mélange jusqu'à ce que la préparation soit homogène, puis on laisse reposer la pâte. Ça, c'est pour les gens qui font préparer la pâte. Hein. Ensuite, on égoutte les cerises, puisque ce sont des cerises au sirop, hein, sinon ça va dégueuler.
Ça va dégorger.
Puis bon, la pâte va s'humidifier, va pas bien cuire.
Quoique le truc, c'est de pré-cuire la pâte avec des graines sèche, style haricot, fève, hein. Ça mange bien.
Oui, mais là, non.
C'est
non,
quelque chose que ma mère n'a pas compris.
Oui, mais c'est pas bon, faut pas faire comme ça. Laissez tomber, ça c'est les feignants qui vont comme ça, quoi. Ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de faire la bouffe et qui font autre chose en même temps. Alors on préchauffe le four à 180 degrés, alors ils mettent thermostasie, ça m'a toujours tué ça, parce que bon, selon les fours, quoi, c'est pas la même température thermostat. On coupe ensuite la boule de pâte en deux parties égales, on étale une moitié dans le moule en la faisant déborder légèrement sur les bords, ça c'est du classique. On monte les blancs d'œufs en neige, on les incorpore aux cerises tièdes et on verse cette préparation sur le fond de tarte.
C'est ensuite, important que ça soit à la même température. Hein.
On saupoudre de sucre vanillé, puis on abaisse l'autre moitié de pâte aux dimensions du moule et on pose ce cercle sur la garniture. On soude bien les bords, on pratique quelques trous dans le couvercle de pâte et une cheminée au milieu que vous ferez tenir avec du papier sulfurisé. Ensuite, on dessine quelques stries au moyen d'un couteau, on badigeonne la pâte avec du jaune d'œuf, ça c'est pour faire dorer la pâte,
ouais. Hein,
ou du lait, avec du jaune d'œuf ou du lait. Quoi. Enfin, jaune d'œuf, c'est mieux, hein, de toute façon. Quoi. On fait cuire 45 minutes jusqu'à que la tarte soit bien dorée. Alors ça, c'est les temps, de toute façon. Hein, c'est
indicatif. Hein.
Indicatif, hein, c'est d'ailleurs ton temps, vous regardez en travers de la vitre du truc, comment ça grille, et puis vous sortez quand c'est
ça
mieux.
Dépend de la hauteur où vous mettez la plaque et tout le reste.
Voilà. On peut servir cette tarte aux cerises avec de la crème fraîche ou de la crème anglaise, ou alors carrément avec une petite boule de glace à la vanille. Delicious, tout simplement. Je voulais juste revenir sur les
sur les BD que je t'ai confiés.
Ouais. Bon, le Warren Ellis, il est terrible. Hein.
Desolation Jones, hein, voilà, avec J.H. Williams III au dessin. Et c'est donc chez Will Stamp Panini Comics. Énorme.
Ouais, c'est énorme hein, quand même. Quoi. Warren Ellis qui a également bossé avec Alan Moore. Enfin bon, c'est du sérieux. C'est très violent. C'est vraiment pour les adultes. Hein. C'est vraiment pas, même peut-être pas pour les ados, quoi.
Peut-être pour les scènes de sexe pour les ados, mais non, même ils comprendraient pas.
Non. Enfin, disons moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la partie justement où ils décrivent un petit peu le monde du porno et tout. Quoi. Alors,
c'est vraiment, bien vu. Hein.
C'est la vérité. Hein. Oui. C'est la vérité, quoi. Hein.
Oui.
D'accord.
Je confirme.
C'est surtout dans la violence, hein, que parce que bon, là, le personnage principal, Jones, là, il est nihiliste, hein, c'est-à-dire il dégomme tout le monde, il pète la gueule à tout le monde, quoi. Rien à foutre. Il y a plus de morale, il y a plus rien, quoi. Zéro, terminé, quoi. Enfin bon, c'est vraiment très très fort. Mais je vous laisse aussi revenir sur le Teen Titan paru ce magnifique bouquin dans les archives DC, quoi, parce que bon ben c'est vraiment un des bouquins de base qu'il se faut d'avoir chez soi si vous voulez un petit peu vous immiscer dans le monde des super-héros, parce que là ça vous explique vraiment très très bien comment ça se passe, quelle est la genèse un petit peu de ces personnages, d'où ils viennent, et surtout dans le bouquin, alors là il y a un double épisode qui est fantastique et qui pour les nuls et ceux qui ont tout loupé à l'école, quoi, quand on parlait la mythologie grecque,
t'as flashé sur le même que moi, oui.
Là ça vous remet bien les choses en place, ça vous explique vraiment les fondements, hein, les bases de la mythologie grecque, hein, avec Gaïa, Cronos, Uranos et toute la bande, quoi. C'est les titans. C'est vraiment terrible. Hein. Vraiment, c'est un bouquin à voir, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est vraiment de la vulgarisation très très bien faite sur la mythologie grecque. Après, on peut aller jusqu'à Robert Greaves, mais ça, c'est un autre. C'est quand même un petit peu plus compliqué.
Il faudrait que tu aies ses commentaires sur les chroniques, hein, là-dessus.
J'y penserai, puisqu'elles
sont toutes publiées.
J'y penserai. Télé à présent, avec au niveau des séries, c'est pas top. Il n'y a pas vraiment d'inédites. Bon, c'est normal, hein, c'est la fin de saison. On va attendre que.
Ah, si, il y a une série dont tu n'as pas parlé, Off Prime.
Oui. Et alors ?
Elle est énorme.
Et c'est diffusé sur ?
M6.
Ouais, mais enfin bon. C'est plus, c'est entre les deux. Hein. C'est télé-réalité, série, c'est.
C'est pas télé-réalité, c'est scénarisé à mort, mais c'est.
Ouais.
C'est quand même assez grave.
Ouais, mais ça se veut un peu télé-réalité comme ça, quoi. Bon, ouais. Moi. Non.
Bon,
il faut que tu saches que je fais quand même l'impasse sur pas mal de choses. Hein. Il y a des trucs dont je ne parle pas, mais qui sont évidents, quoi. Mais bon, je suis obligé de faire plus ou moins l'impasse sur pas mal de choses. Sinon, ok. Hein. Il n'y aurait plus d'émissions de sport du tout. Hein.
Oui.
Alors, tout d'abord, l'inédit, quand même, ça sera diffusé à partir de demain soir sur Canal+. En fait, c'est une série dont on a déjà vu quelques épisodes, mais de la version anglaise. Et là, on nous propose la version américaine. Et là, c'est la bonne poilade. Hein. C'est un des comics anglais qui marche le mieux en ce moment. La preuve, c'est que on a adapté sa série aux États-Unis et même en France. C'est The Office.
Oui.
Alors, The Office, c'est une création de Ricky Gervais, hein, qui actuellement, on peut le voir sur TP Star dans sa nouvelle série qui s'appelle Extras. Ça a été diffusé au départ sur BBC Two à partir de 2001. Il y a eu une version française, mais qui n'a pas duré longtemps, parce que bon, quand les Français décident de s'inspirer de séries étrangères et disent oh putain c'est super bien, on va faire pareil, c'est génial et tout, bon, la pauvreté créatrice des scénaristes fait que la série, généralement, elle dure pas longtemps, et même dans le cas, on arrive à trouver un casting un petit peu qui tient la route, hein, parce que là c'est dans la version française, c'est François Berléand qui reprend pas le rôle de Ricky Gervais, mais enfin bon, qui transpose un petit peu le rôle de Ricky Gervais, hein, patron d'une petite boîte dans une ville de province et tout, qui est odieux, qui est dégueulasse avec ses employés, c'est un régal, hein, de toute façon, mais c'est difficilement transposable, quoi, c'est-à-dire cette espèce d'humour grinçant, cynique anglais, difficilement transposable en France. François Berléand est un bon acteur dans ce registre-là.
Oui, il est très très fort. Hein. Mais c'est quand même assez étonnant. Il le joue super bien, mais c'est vrai qu'après, il y a énormément de choses qui manquent.
Mais mais ça reste léger. Et donc, il n'y a eu que 6 épisodes de cette version française. Par contre, ce qu'on va pouvoir voir à partir de demain soir sur Canal+, c'est la version américaine. Version américaine dans laquelle Steve Carell, qui est un des gros comiques américains, c'était l'animateur du Saturday Night Live, et c'est un acteur très très connu aux États-Unis. Il a d'ailleurs obtenu le Golden Globe du meilleur acteur comique pour sa version américaine de The Office, hein, devant Tony Chaloub, pour Monk, ce qui n'est pas n'importe quoi.
C'est dire le niveau quand même.
C'est dire le niveau. Eh bien, cette version vous est proposée donc à partir de demain soir sur Canal+, à partir de 22h45. Et la semaine dernière,
à noter que du même scénariste anglais, il y a une série qui s'appelle The IT Crowd, qui est une série sur les geeks, qui a fait un carton sur Channel 4 en 6 épisodes. La deuxième saison vient de se terminer de tournage et sera diffusée là très prochainement. Et NBC va l'adapter aux États-Unis. Donc on attend de voir ce que ça donne. Mais je me demande, ce sera aussi fort que la version anglaise, qui est quand même assez canon, quoi. C'est assez chaud. Enfin bon, voilà.
Alors,
Je l'ai placé.
Oui. Alors, la semaine dernière, on évoquait un petit peu les salaires des différents acteurs et actrices qui apparaissent dans les séries, et salaires qui sont vraiment très très conséquents. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu un seuil qui avait été franchi à propos de la saison Friends. Parce que les 6 acteurs et actrices principaux qui étaient traités à égalité au niveau rémunération, ils ont toujours traité leur contrat à égalité, c'est-à-dire il n'y avait pas « moi je suis meilleur que toi, donc je dois toucher plus que toi ». De ce côté-là, hein, Friends a été une série réussie à pratiquement tous les niveaux.
Et à l'époque, point de vue, c'est dit que
ça. Et à l'époque, Friends a duré 10 saisons, je crois au bout de la 4e ou 5e saison, quand il a fallu renégocier les contrats, et que justement cette négociation s'est faite sur la base d'un certain chiffre, eh bien ils étaient payés chacun $100,000 l'épisode, ce qui était une somme énorme à l'époque, hein, c'était c'était fin des années 90, donc c'était assez énorme. Mais vu ce que ramassait la chaîne en fric au niveau des publicités qui sont diffusées avant, pendant et après les épisodes, et c'était pratiquement peanuts, quoi.
Plus les droits, plus les rediffs dans tous les pays, ça a été absolument énorme en vente de droits.
Oui, non, et là, bon, ok, les chiffres ne sont plus du tout les mêmes. Là, on a carrément doublé les chiffres. Hein. Alors, il faut savoir que par exemple, Hugh Laurie, pour son rôle dans Doctor House, prend $200,000 par épisode. Alors que Steve Carell pour The Office, eh bien, ne prend que $175,000 par épisode.
Ouais, je sais que
dure la vie.
Matthew Perry pour Studio 60 avait proposé, qui s'est ramassé d'ailleurs aux États-Unis, une renégociation à la baisse de son salaire justement pour que la série continue. Et bon, finalement, ça s'est arrêté là.
Alors The Office, c'est donc demain soir à partir de 22h45, et alors j'ai pas compris pourquoi The Office était diffusé en seconde partie de soirée, alors qu'en première partie de soirée, il y a du lourd, il y a du très très lourd, de l'inédit également, hein, Canal+ qui là a décidé de se lancer à fond dans la diffusion de séries, hein, de qualité quand même, et même en faire des jours emblématiques, hein, le jeudi soir et maintenant le dimanche soir, avec uniquement que des séries, plus de films le dimanche soir et tout, plus de full frontal avec TF1, avec France 2 et tout ça, non, on laisse tomber.
Les séries.
Mais par contre, eh bien, grosse série quand même, avec la saison 4, donc inédite, de La Fureur dans le Sang. Série qui en est à sa 5e saison actuellement, mais par contre, des saisons où il y a très peu d'épisodes tournés, la saison 4, il n'y a que 4 épisodes qui sont tournés par la saison, mais bon, ce sont des téléfilms, hein, c'est la durée d'un téléfilm. La Fureur dans le Sang, issue des romans de Valérie McDermid, une femme qui écrit des romans super trash, parce que il faut dire que La Fureur dans le Sang, c'est vraiment très très trash, et pourtant c'est quand même diffusé à 20h50, hein, demain soir sur Canal+, avec le personnage principal, c'est Tony Hill, hein, qui est psychologue et qui participe à des enquêtes policières dans lesquelles il traque souvent des gens complètement ch'tarbés, faut bien le dire, magnifiquement interprété par Robson Green, excellent acteur. Et on remarquera que dans cette saison 4, eh bien, Carol Jordan, hein, qui est l'inspectrice qui fait le lien entre Tony Hill, qui est qui est en dehors hein, de la police, et il fait juste que donner un coup de main de temps en temps et tout, en tant qu'expert. Et bien Carole Jordan, elle disparaît, c'est la blonde hein, qui est avec, il avait des problèmes, on sait pas trop, enfin, et elle est remplacée par la nouvelle chef de la police, Alex Fielding, interprétée par Simone Labib. Et justement, ben, l'épisode proposé demain soir s'appelle La Remplaçante. La Fureur dans sang, donc demain soir sur Canal+, à partir de 20h50, suivi de The Office. Autre série britannique rediffusée, qui avait été diffusée par Canal+, et là qui se retrouve sur Paris Première, mais excellente série qui n'a duré qu'une saison parce que le sujet était un petit peu austère, on va dire, hein, c'est en immersion, version originale c'est In Deep, à savoir eh bien les agents qui travaillent sous couverture, les agents qui sont infiltrés, hein, des bon, on a déjà vu ça avec Donnie Brasco.
Oui, c'était un flic dans la mafia.
Voilà, un flic dans la mafia, c'est ces choses-là. Sauf que là, c'est créé par Peter Jukes, c'est anglais, britannique, 12 épisodes seulement, parce que bon, bah, au bout des épisodes, la chaîne a dit bon, c'est pas mal, mais bon, l'audience est pas top, quoi, tant pis, c'est dommage, c'est très bien interprété par Nick Berry, Stephen Tompkinson, entre autres, et Donald Sumter, enfin bon, des habitués, mais de bons acteurs britanniques. C'est diffusé sur Paris Première jeudi prochain, à partir de 22h35. Et puisqu'on en est au chapitre des rediffs, je voulais quand même vous signaler que Canal Jimmy rediffuse à partir de mercredi prochain et très tard le soir, 23h15. Bon, vu la série, c'est un petit peu normal. Il s'agit de cette excellente série argentine co-produite par HBO et sa filiale sud-américaine HBO
Latina,
c'est Epitaphios qui est donc rediffusé sur Canal Jimmy avec 3 épisodes à la suite à partir de mercredi prochain 23h15 sur Canal Jimmy. Mais jetez-vous dedans, c'est terrible, c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Sur les 13 épisodes que dure cette série, il y a peut-être un ou deux épisodes où on peut peut-être un petit peu se faire chier parce que bon, à la place d'avoir des trucs bien trash, des meurtres, il s'agit pour chasser un serial killer comme d'habitude. Mais attention, c'est quand même très très bien mené. Il y a un épisode qui est un petit peu mélo comme ça, quoi, où bon, on se fait peut-être un petit peu chier, quoi. C'est le 4 ou le 5, quoi. Mais le restant, c'est vraiment, comme dirait l'autre, c'est de la balle, mon gars. Passons à présent. Qu'est-ce que tu les documentaires, on va se le faire après. Un petit peu de télé-réalité avec quelque chose qui va plaire à tous ceux qui aiment les jolies jeunes filles, et en particulier une certaine Nathalie Kirtinger, la chanteuse des Pussycat Dolls.
International Sexy Pose the Dudes.
Avec une émission télé-réalité qui s'appelle The Next Pussycat Doll. Sera diffusé à partir de lundi prochain sur NRJ 12. Alors, le trip, vous savez que les Pussycat Dolls sont déjà...
Des mannequins.
Non, combien ?
25 ?
Non, 6. Elles sont 6. Et bien, cette émission télé-réalité propose à une candidate, parmi bien d'autres, bien d'être la 7e Pussycat Doll. Tu te rends compte ? Terrible.
Alors, il faut déjà avoir fait au moins une fois la couverture de Vogue, de Cosmopolitan, de Elle, États-Unis. Et...
Ouais. Alors, au départ, audition publique et tout, c'est ouvert au grand public et tout. Et on sélectionne 9 candidates et après, il va y avoir les éliminatoires et tout. Enfin bon, le trip traditionnel. À partir de lundi, donc, les deux premiers épisodes de cette réalité qui s'appelle The Next Pussycat Doll avec les auditions. Et en deuxième épisode, bienvenue dans la maison des dolls, dans la maison des poupées. Wow. Tout ça sur NRJ 12, lundi à 20h50. Ensuite...
T'as de la chance que les machines soient en panne.
Ouais, pourquoi? ouais, les alertes. Non, mais tant pis. Hein, tac, ah ouais. Si je commence à mélanger les papiers, ça va pas le faire, là. Un petit peu de documentaire à présent avec ce soir sur Arte une nouvelle série de documentaires dans la case prime time du samedi soir 20h45. Là c'est le fabuleux destin des inventions avec l'histoire de monsieur Charles Goodyear
Le pneu, la vulcanisation.
Voilà, l'inventeur qui a trouvé l'histoire, comment faire durcir le caoutchouc et la vulcanisation. Donc Charles Goodyear et le caoutchouc, c'est ce soir sur Arte à partir de 20h45. Sinon, beaucoup de d'émissions documentaires, là j'en ai choisi trois qui concernent des polars, enfin des histoires policières, parce que moi j'aime bien. Tout d'abord, rediffusion du Zodiac Killer, dont je vous avais parlé la semaine dernière, le documentaire de Kevin McCarthy, dans lequel Lawrence Bloch vous expose sa version des crimes du Zodiac. C'est sur Canal Jimmy mardi prochain à 22h15. Hein, donc si vous avez loupé samedi dernier, ça vaut le coup, dimanche dernier, ça vaut le coup de le revoir. En plus, il n'y a pas le téléfilm avant, quoi. C'est ça qui est cool. Le Sanctimony, là, espèce de truc complètement débile qui a rien à voir, quoi. Sur Paris Première ce soir à 23h50. Alors, c'est un documentaire qui s'appelle Connelly. L'auteur mène l'enquête. Michael Connelly est un auteur de polar qui commence à être connu grâce à son personnage Harry Bosch, Hieronymus Bosch, qui a d'ailleurs été mis à l'écran par un certain Clint Eastwood, Créance de sang, hein, entre autres. Et Michael Connelly, avant d'être écrivain, bon, comme la plupart des auteurs de polar, et journaliste. Ah ouais. Il y a beaucoup de journalistes qui sont auteurs de polar. Je sais pas si t'as remarqué, quoi. Même à Toulouse. Là, Michael Connelly, avant d'être de commencer sa saga de l'inspecteur Harry Bosch, journaliste, a bien assisté à pas mal de faits divers, dont un fait divers vraiment tragique, l'histoire d'un type qui s'appelle Christopher Wilder, qui avait dégommé 2-3 nanas, et à partir du moment où on avait commencé à savoir que c'était lui, ben il avait dû se barrer, dans sa cavale, il avait continué à tuer. Et donc c'est l'histoire de Michael Connelly, journaliste, hein, qui se met à couvrir cette histoire depuis le début jusqu'à la fin. C'est sur Paris Première ce soir à partir de 23h50. Et il y a également sur 13e rue vendredi prochain à 23h25 le documentaire dont je crois je vous avais déjà parlé, qui avait déjà été diffusé, qui s'appelle La vérité sur le Dahlia noir. Avec la version du Dahlia noir par Steve Odell. Steve Odell qui a sorti ce bouquin dans lequel il a découvert plein de choses en fouillant dans les archives de son père défunt, et dans laquelle Steve Odell est un ex-flic de la police de Los Angeles. Et donc au courant un petit peu de cette histoire-là, hein, puisqu'il était tout jeune quand l'histoire du Dahlia noir était survenue à la fin des années 40. Et Steve Odell donc en arrivait à la conclusion que c'était son père qui était le véritable tueur du Dahlia noir, et d'autres jeunes filles d'ailleurs. Tout ça, ce sera vérifié vendredi prochain sur 13e rue à partir de 23h25. Ouais, on va continuer comme ça, hein, dans la foulée, hein, ou on fait une petite pause musicale, non?
Bah, je sais pas lequel tu veux mettre.
Le 16. Ouais, vas-y, mets le 16. Et après, tu me cales le 1. Parce que là, ouais, comme ça.
Alors, si vous croyez que c'est facile avec un truc, on voit pas l'afficheur.
Ah, bah ouais, bah ça, hein. T'as qu'à prendre celui du haut.
Alan Hughes,
The Detective, extrait de la bande originale de la série anglaise The Two Detectives.
The New Detectives.
Sur Radio FMR, 89.1 MHz, le supplément week-end.
Un petit peu de vampire à présent. Avec une bonne soirée, Sci-Fi, sur la chaîne Sci-Fi. Commence très très fort par pas des vampires. Il faudra attendre la deuxième partie de soirée à 22h30. Et la diffusion de l'excellent film, pour moi ça c'est un vrai film culte, hein. C'est le film de Catherine Bigelow qui s'appelle Aux frontières de l'aube, les vampires modernes et tout. Alors là c'est terrible, hein. C'est vraiment très très bien, c'est un des meilleurs films qu'elle ait fait, hein, Catherine Bigelow, sans problème, quoi, avec Adrien Pasdar dans le rôle principal. Adrien Pasdar qui est Profit, bien entendu. Eh ouais, l'acteur qui joue Profit, et également Lance Henriksen, qu'on ne présente plus, hein, Millennium, mais là, dans ce film, il est, c'est excellent. Et ce film est diffusé surtout pour, bien, en préambule, enfin bon, c'est un préambule très très long, hein, quand même, un film, pour la diffusion de la série Blade. Et oui, il y a une série qui s'appelle Blade, tirée du film du même nom, des films du même nom. Qui
oui, il y en a trois.
Et là, eh bien, nous propose les deux premiers épisodes, pilote, en deux parties.
Si au moins, alors, c'était plus proche de la série BD.
C'est ce qu'ils ont voulu au départ, hein, c'est d'être proche de la série BD, de se détacher un petit peu des films. Enfin, ils ont réussi ni l'un ni l'autre. Ce qui fait que la série n'a même pas duré une saison, hein, a été jetée aux orties.
Je suis à peine étonné.
Ce sera diffusé ce soir à partir de 5:00, donc, hein, la série Blade avec les deux premiers épisodes. Et c'est quand même moins 12, hein, attention, hein, c'est quand même assez violent, quoi. Sinon, demain, on va voir ce qu'il y a comme vampire à la télé cette semaine. Demain, sur Paris Première, un gros classique, c'est le Dracula de Coppola, de 92 à 20h50.
Énorme.
Un peu plus dans la rigolade, mais assez loupé quand même. C'est mercredi sur Sci-Fi à 23h10, le vampire de Brooklyn, de Wes Craven de 95, avec Eddie Murphy et Angela Bassett. Ou jeudi, alors là, attention.
Non, parce que j'ai vu Blackula, même Blackula à côté est beaucoup mieux. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors jeudi sur TF6, c'est pas le 1, c'est le 2. Vampire 2 à 20h50, le film de Tommy Lee Wallace, le vampire 1, qui a été fait par John Carpenter avec James Woods, Frangin Balouin, entre autres. Là, c'est John Bon Jovi qui tient le rôle principal. Mais par contre, il y a également Natasha Gregson-Wagner. Alors là, rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder le film Natasha.
Ouais, Wagner. Parce que pour du...
La fille de Robert Wagner.
Pour Bon Jovi.
Dis pas ça, si ma femme écoute, elle va te tuer. Voilà, donc pour les vampires, y a que ça, hein, concernant les films de vampires dans la semaine.
Ouf.
Ouais, y a que ça. Alors, on termine avec une petite braderie de films cultes cette semaine, et ça se résume pas mal à des soirées, en fait, hein, des soirées thématiques. Ben là, il y a quand même du j'allais dire du gros culte, mais. Non, je vais pas le faire. Si, tu mets le 1, prépare le 1, là. Attention, ça va venir. Tout d'abord, demain soir, sur Ciné Frisson, soirée Alien Predator. Ouah, ça, c'est du lourd.
Ah non, pas le Alien versus Predator. Non, pas ça, pas
eh
ça.
Eh ben, si, quand même. Car à 20h45,
oh,
ça commence.
Fallait pas.
Ça commence gentiment avec Alien la Résurrection. Le film de Jeunet de 97, dans lequel on reprend les personnages principaux. Ripley a été ressuscité 200 ans plus tard et tout, mais malheureusement, le fait de la ramener à la vie, ça ramène également les monstres. Hein. C'est con, mais c'est comme ça.
Ça dans ta gueule.
Et on notera que dans ce film, joue également un certain Gary Dourdan. Qui est Gary Dourdan? C'est le Black là qui joue, qui se marie en douce dans CSI Les Experts. Si.
Oh punaise.
Eh ouais. 22h30 donc, Alien versus Predator, hein, le film de Paul Anderson avec Lance Henriksen et Colin Salmon. Alors là, on se demande ce qu'il va foutre là. Moi, je dis pas du tout. Bah, il a besoin de bouffer. Hein, bah, c'est comme ça, quoi. Et à 0h10, Predator. Alors là, c'est du lourd. Hein, c'est le film de McTiernan de 87. Sinon, dimanche, il y a également un film culte. Là, c'est un vrai film culte.
Ah,
un
Predator.
Film cul.
Le Predator, il vaut mieux d'ailleurs le voir en VO qu'en VF.
Ah oui, sans
tu
problème.
Tu sais pourquoi? Parce qu'en VF, ils ont diminué le bruit des flingues, tandis qu'en VO, c'est tellement saturé, t'es sourd. C'est impressionnant.
Un film culte, c'est sur Cinéculte demain soir à 22h40. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous taper Alien vs Predator, vous zappez sur Cinéculte pour vous taper un film vraiment cul, mais vraiment superbe, superbe. C'est L'Empire des Sens de Nagisa Oshima, Oshima de 75. Et sinon, eh bien, lundi prochain. Sur la chaîne du cinéma classique. Avec l'intro, la musique. De Lalo Schifrin.
Ah d'accord, ok.
Le film date de 73. Réalisé par Robert Close. Les Shaw Brothers. Enter the Dragon.
Oh punaise, oui, d'accord, ok.
Opération Dragon. Avec Jim Kelly, avec John Saxon.
Inoubliable.
Opération Dragon, donc c'est sur TCM lundi prochain à 20h45. Version originale ou en version française, c'est comme vous voulez avec la zapette. Hein. Sinon, mardi prochain, soirée Robocop sur la chaîne Action avec à 20h40 le Robocop 1 de Verhoeven et à 22h20 le Robocop 2 de Irving Kirchner. Il y a également une soirée que j'ai même pas noté le jour, mais c'est jeudi prochain. Sur Ciné Frisson, et là ça va faire vachement plaisir à Thomas hein, qui va brancher le disque dur et tout pour enregistrer les trois à la file. Bon, il a déjà le 1, mais c'est pas grave. C'est soirée Infernal Affairs avec à diffusion des trois à la file à 20h45 le 1, 22h25 le 2 et 0h25 le 3. Alors, le 1, il est monstrueux, tellement monstrueux qu'on en a fait une reprise aux États-Unis qui a d'ailleurs été oscarisée.
Ouais. Hein. T'es pas génial.
Putain, c'est des voleurs quand même, quoi. C'est quand même des voleurs. Hein. Enfin, c'est ça le cinéma, hein. C'est reprendre les vieilles histoires et tout, les remettre au goût du jour. C'est ça le cinéma en fait. Hein. Le 2 qui est pas mal, quoi, mais bon, qui est censé se situer avant le 1 dans le temps, et le 3 qui est un porte-nawak, que c'est n'importe quoi, qu'on a voulu exploiter le filon à fond les manettes et tout, et puis bon, voilà, c'est tout. Tout ça sur Ciné Frisson, donc jeudi prochain, Infernal Affairs. Et on termine avec du trash et du truc qui te met vraiment bien mal à l'aise. C'est la soirée sexe, pouvoir et perversion sur Arte vendredi prochain. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h20, avec d'abord un documentaire qui s'appelle Shoah et Pin-Up, et qui raconte un petit peu l'histoire et surtout la production de monsieur Boris Lurie, qui a pratiqué ce qu'on appelle le no art. Et qui a vraiment fait beaucoup parler de lui, hein, parce que bon, c'est vraiment de l'art provoque à fond les manettes. Boris Lurie est né à Riga en 1926, hein, dans une famille juive allemande. Donc de ce fait, eh bien, il est passé par la case camp de concentration. Il en a fait trois camps de concentration. Il a survécu.
Bah, il a eu du bol.
Après la guerre, il a émigré aux États-Unis où il s'est installé comme artiste et où il a développé donc ce qu'il appelle le no art. À vérifier donc vendredi prochain sur Art à partir de 22h20 et c'est suivi à 23h15 d'un film qui est vraiment un film trash qui est culte quoi, mais que peu de gens ont vu hein, parce que bon c'est difficile de voir le film du début jusqu'à la fin. Bon, à l'époque on n'avait pas tellement le choix, à la télé il y avait que dalle, donc on allait au cinéma quoi, tu vois. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué, il faut vraiment aller vouloir le voir. Celui-là c'est Portier Nuit, le film de Liana Cavani de 73 avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling. Alors si vous aimez les trucs un peu sadomaso, les trucs qui foutent vraiment mal à l'aise, c'est un film qui fout vraiment mal à l'aise. Pas autant mal à l'aise que Salo, les 120 journées de Sodome de Pasolini, mais c'est tu sors de ce film, t'as quelque chose dans les tripes qui te c'est l'histoire d'un ex-tortionnaire de camp de concentration qui retrouve une de ses anciennes pensionnaires. Et bon, bah, quelle relation va en découler, bah, c'est à vous de voir. Si vous en avez envie, Portier Nuit de Lina Cavani est diffusé donc sur Arte vendredi prochain à partir de 23h15. Tu vois, on finit dans la beauté, dans l'allégresse la plus totale.
Merci du sport. C'était le supplément week-end spécial, on va dire héritage. Et dire qu'on avait commencé avec de la bande dessinée enfantine, quelque chose de mignon, de sympa. Puisque si vous avez manqué le début de l'émission tout à l'heure, nous avions eu Valt, le fils de Goss, co-scénariste, co-dessinateur du Scrum Mustache, qui parle de son travail sur la reprise. Une interview qui a été enregistrée lors du dernier festival de la bande dessinée Angoulême, c'était en janvier dernier. Ensuite, on a eu un personnage secondaire d'Albator aussi qui s'est animé, ainsi que un personnage de Machereau, Raymond Machereau, donc qui cède la main sur un de ses chats. Et puis après, ben, comme vous l'avez entendu dans la télévision, ça a été le massacre absolu. C'était le supplément week-end de Radio FMR du samedi 2 juin 2007. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, même punition, avec Thomas. J'espère qu'il sera de retour et peut-être des invités. Je ne garantis rien pour l'instant. De suite, ça c'est du sport avec l'actu en direct des vestiaires. 15h, le potager. 16h, scène transmission. 17h, Big Bang. 21h, stay tuned. Et nous sommes en direct sur Radio FMR jusqu'à 5h du matin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye.
Écoutez l'intégralité d'émission sur le iPod blog de dascritch.fr, je sais pas quoi, .net. Ouais, parce que .net ça coûte pas cher, t'as pas besoin de t'inscrire, tu vois. Enfin, si c'est moi qui vous l'explique, de toute façon vous pigez rien parce que déjà moi j'y comprends rien.